Gloire à Dieu, nous sommes au dernier jour concernant le livre des Cantiques, Nous sommes au dernier jour et c'est toujours pas facile. À chaque fois que nous devons changer de livre, c'est comme si nous quittions un ami, mais puisque le livre qui va suivre va être encore extraordinaire, nous continuons à baigner dans la présence de Dieu. Et nous en sommes au chapitre 7, et je vais rappeler que le livre des Cantiques est là pour nous amener à une profonde relation avec Dieu. Voilà. Comme nous l'avions dit au départ, dans la vie d'une personne, il y a plusieurs sortes d'amour. Et même envers Dieu, il y a plusieurs sortes d'amour. Nous pouvons l'aimer comme notre Père. Nous pouvons aussi l'aimer comme notre Maître, notre Dieu tout court. Mais Dieu lui-même veut nous amener à ce que son amour envers nous soit complet, qu'il n'y ait aucune nuance qui ne manque. Voilà. Et dans certains endroits, lui-même, il se compare comme une mère en disant, même si ta mère t'abandonne, moi, je vais te garder. Et la comparaison la plus simple, c'est avec le Père. Donc, il se présente à nous comme étant notre Père. Et là, dans le livre de Cantiques, il se présente à nous comme étant notre amoureux. Donc, l'amoureux des gens avec qui il est en relation. Donc, le but, c'est de nous amener à une marche plus profonde, à un amour plus intense, vous savez. Nous avons dit qu'il y avait plusieurs sortes d'amour et ces amours-là ont des limites dans les échanges, quoi. Il y a des limites, même si un père aime beaucoup ses enfants, mais il y a des limites, il ne dort pas avec eux. Voilà, donc l'amour qui va très loin dans l'échange, c'est l'amour entre un mari et sa femme. Voilà, donc c'est l'amour qui va très loin dans les échanges. Et Dieu veut nous amener à ce niveau-là. Donc c'est pourquoi les détails sont vraiment donnés. Les détails concernant la relation homme et femme sont donnés au fait pour nous dire, attention, ne vous arrêtez pas à un certain niveau d'amour, à un certain niveau de relation avec moi, il faut aller plus loin, comme entre un homme et une femme. Donc c'est ça l'objectif des Cantiques des Cantiques. C'est pourquoi, je répète, hein, tout est dit concernant l'homme et la femme pour pouvoir nous débloquer. Parce que Dieu veut que nous ayons une relation pleine, totale avec lui. Et nous allons lire donc le verset 13, hein, je crois, 12 plutôt. Non, pardon, 11, excusez-moi.
Je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi. Viens, mon bien-aimé, sortons donc les champs, demeurons dans les villages. Dès le matin, nous irons aux vignes. Nous verrons si la vigne pousse, si la fleur s'ouvre, si les grenadiers fleurissent. Là, je te donnerai mon amour. Les mandragores répandent leur parfum et nous avons à nos portes tous les meilleurs fruits. Nouveau et ancien. Mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi.
Amen. Donc là, nous sommes dans l'élan de retrouvailles où maintenant le bien-aimé et sa bien-aimée se réjouissent de l'œuvre du bien-aimé. Et les mandragores, c'est des fruits d'amour et c'est pourquoi on en parle. Et le verset le plus important, c'est « Je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi. » C'est un amour réciproque. Il faut que le chrétien, à tout moment, soit dans cette conception-là que Dieu, ce qu'il préfère le plus au monde, c'est lui. Donc, ce que Dieu préfère le plus au monde, c'est son enfant. C'est le chrétien. Vous avez la phrase que Dieu a dite sur Jésus-Christ au moment du baptême, « Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. » Au fait, c'est une phrase qui nous concerne, nous tous, nous les disciples de Jésus-Christ. Et il faut demeurer dans cette pensée-là pour pouvoir tenir face à beaucoup de difficultés qu'on a sur terre. Et là, c'est les retrouvailles. Nous avons dit la fois passée, nous allons en profiter pour faire le résumé du livre. Au départ, l'amour entre le bien-aimé et la bien-aimée est présenté. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle un peu la conversion. Quand nous nous convertissons, il y a un amour fou envers Dieu qui se manifeste réciproquement, parce que Dieu, lui, il est constant dans tout. Voilà, ça se manifeste. Et c'est ça le début du livre. Dans le début du livre, il y a l'amour entre le bien-aimé et la bien-aimée. Ça nous rappelle aussi l'amour de Dieu quand il a créé l'humanité. Il y a cet amour-là, cet échange-là qui est total. Et puis, par la suite, cet amour est présenté dans son maximum. Ce que Dieu attend de ça, c'est qu'il faudrait que ça soit. Donc dans Cantique 2, 16, c'est écrit, « Mon bien-aimé est à moi et moi je suis à lui. » Donc cet amour est présenté dans son maximum. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qu'on appelle l'habituation. Donc quand on s'accoutume à quelque chose, il y a comme une négligence qui s'installe. Ce qui était extraordinaire, qui était comme une grâce, devient, comme on dit aujourd'hui, comme un droit. Donc ça n'a plus vraiment de grand goût. C'est un droit, et c'est la routine, c'est normal. Or, ce n'est pas normal, c'est une grâce. Cet amour est une grâce. L'amour que Dieu a pour nous, c'est extraordinaire, c'est une faveur. Et quand on finit par s'habituer, ça devient normal. C'est pareil pour tout, hein. C'est pareil pour tout. Ne vous en faites pas, les gens qui habitent avec le président, ils ne le voient pas comme un président. Ils le voient comme l'homme qui s'est fâché hier. Ils le voient comme l'homme qui a oublié de mettre la ceinture, on lui a rappelé. Ils le voient comme ça. Donc les gens, à force de vivre une grâce, quelque chose d'extraordinaire, ils finissent par s'habituer. Et c'est ça le danger que courent beaucoup de personnes, s'habituer à Dieu. Et oublier qui est Dieu, oublier son amour pour nous. Et ça, ça crée la religion, ça crée la routine. L'homme finit par se fixer lui-même ses propres règles concernant la relation avec Dieu, et ça produit finalement la chute. C'est ce qui s'est passé. Nous avons vu le bien-aimé qui était parti quelque part, qui revient. La bien-aimée ne voulait pas l'ouvrir parce qu'elle était déjà en pyjama. Elle traînait et le bien-aimé a forcé, mais la bien-aimée ne réagissait pas comme il fallait. Elle s'est dit, mais est-ce que je dois me lever, me salir les pieds encore pour aller l'ouvrir? Et c'est ce qui se passe quand finalement le chrétien s'habitue à Dieu. Dieu n'a plus le même goût. Et c'est ce qu'on retrouve donc dans Apocalypse, quand le Seigneur dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, reprends-toi, pratique tes premières œuvres. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Voilà, c'est ce qui se passe. Il y a une phase où le chrétien perd le premier amour, il entre dans les habitudes, il entre dans le train-train quotidien, et Dieu n'est plus extraordinaire. Prier n'est plus quelque chose de beau, qui a un bon goût. Vivre avec les frères et sœurs en communion fraternelle, ça devient lourd. Et ainsi de suite, écouter la parole, ça devient comme un exercice d'école, comme aller à l'école. Et voilà, le feu est perdu. Et on commence à traîner les pieds pour s'approcher de Dieu. Mais Dieu lui reste fidèle. Il vient frapper avec instance, avec insistance. Et finalement, quand Nous voulons maintenant le rejoindre. Il fait comme s'il disparaissait. Nous avons pris l'exemple de disciples d'Emmaüs. Quand ils comprennent que c'est lui, ben il disparaît. Le but, c'est quoi? C'est de produire en nous, parce que la même envie, le même désir que lui il a pour nous, eh bien, il veut produire ça en nous par cette disparition-là. Et c'est ainsi que ceux qui vraiment ont commencé à voir naître ce désir, ils vont aller jusqu'au bout pour rechercher le bien-aimé, afin que ce désir soit concret, concrètement pratiqué. Voilà. Et c'est ce que nous pouvons dire aussi que l'Église vit aujourd'hui. Nous vivons un temps où Dieu était avec nous, nous nous sommes habitués, nous avons créé nos propres règles, créé nos propres statuts, règlements intérieurs, systèmes de fonctionnement, et Dieu est devenu comme une forme d'école, une forme de pratique sportive avec des règles et avec une logique humaine. La vraie soif, le vrai amour, je parle de l'Église en général, l'Église visible, ben, a disparu. Maintenant, il se trouve que dans cette Église visible, il y a des gens, eux, qui veulent vraiment de Dieu. Mais Dieu a comme disparu pour eux aussi. Donc, c'est cela, parce que Dieu agit pour toute l'Église. C'est comme s'il n'est plus là, parce qu'il y a des gens vraiment qui le cherchent sincèrement, mais ils ont l'impression que, ben, il ne répond pas. Tout simplement parce qu'il sait que s'il répondait, la fausse Église va profiter de cette réponse-là, va refaire retomber encore la masse dans l'erreur. Donc, il est en train de faire un travail de purification par une forme de disparition pour que nous puissions nous remettre en question, changer de comportement. Le chercher en profondeur, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Malgré le fait qu'il y en a qui sont sincères, qui crient à lui, il ne semble pas agir comme ceux-là s'attendent, parce qu'il veut que leur soif de lui continue à grandir, continue à chercher. Il veut en même temps qu'il y ait séparation entre ceux qui sont de lui et ceux qui ne sont pas de lui. Et c'est ce travail-là qui fait qu'il semble absent, de sorte que dans son absence, ceux vraiment qui le cherchent, ils vont continuer à le chercher. Et ceux qui ne le cherchent pas et qui sont dans la routine finiront par prendre des voies clairement obscures et mauvaises devant tous. Tout le monde le verra, de sorte qu'il y aura une séparation vraiment qui va se faire. Nous avons vu ça du temps de Covid. Nous avons vu une séparation se faire entre ceux qui avaient vraiment foi en Dieu et servaient Dieu et ceux qui avaient leur système. Je me souviens à l'époque, j'étais dans le sud, et j'étais parti dans une église pour le culte. Et j'ai tendu la main au pasteur, il a refusé, il a fermé, il m'a donné le point. Voilà. Et j'ai dit, mais c'est pas possible. Et bien moi aussi, j'ai serré son point avec ma main. Qu'il prenne les microbes s'il le faut. Voilà. Mais bien aimé. Donc, la Sainte Cène était annulée pendant toute cette période-là. Sainte Cène annulée. Ce que Jésus a dit qu'il faut faire, annulée. C'était écrit, hein? Les offrandes, annulées. Donc, c'était juste, vous venez, il y a les membres de l'accueil qui vérifient le masque, et puis, vite, vite que le culte finisse. Je dis, ben voilà. C'est là que, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il va y avoir des circonstances, des situations qui vont créer la séparation avant que Dieu, hein, avant que nous vivions le retrouvaille du chapitre 6 et du chapitre 7. Donc dans le chapitre 6 et 7, il y a comme des retrouvailles. Et ces retrouvailles-là précèdent l'enlèvement. C'est ça que nous clôturons aujourd'hui avec le chapitre 8. Nous sommes dans les retrouvailles. Donc il y aura des retrouvailles, il y aura une séparation entre les vrais et les apprentis, les bricoleurs, il y aura une séparation. Et quand cette séparation sera plus ou moins claire, le Seigneur fera les retrouvailles avec la vraie Église. Il y aura comme une sorte de réveil, une sorte de prise de conscience de l'amour de la Bible et une fusion, comme nous voyons dans les Actes des Apôtres, entre Dieu et son peuple, Dieu et l'Église véritable. Et en ce moment-là, il y aura quelques persécutions contre cette Église véritable. Et d'ailleurs, la fausse Église en profitera pour bien s'éloigner de Dieu lors de ces persécutions. Et avant que les persécutions n'étouffent l'Église véritable, le Seigneur Jésus va venir l'enlever. Au fait, c'est ça le livre de Cantiques des Cantiques. Donc il y a un temps où la vraie relation est présentée et commencée. Il y a comme une forme d'interruption à cause de la routine, à cause de l'habituation. On finit par ne plus trouver Dieu extraordinaire. Il y a une sorte d'assoupissement. Et dans cet assoupissement-là, Dieu continue à crier, à venir frapper. Les gens vont lui résister. Et quand certains vont prendre conscience qu'il faut revenir à Dieu, Dieu va faire comme disparaître, comme pour les disciples d'Emmaüs. Mais c'est pas pour faire mal, c'est pour nourrir ce désir-là, que ça soit fort, ce désir de le voir agir, qu'on cherche vraiment sa face, qu'on montre que c'est ce qu'on veut. Voilà. Et pour permettre la séparation, et à un moment donné, il y aura les retrouvailles qu'on a vues la fois passée, et ces retrouvailles-là vont nous préparer finalement à l'enlèvement, où nous dirons, nous ne pouvons plus attendre plus que ça, Seigneur, viens. Voilà comment le livre de Cantiques se conclut. Voilà, j'ai donné ce résumé-là. Désormais, le livre de Cantiques ne sera plus une étrangeté pour les enfants de Dieu qui suivent ces études bibliques. Ils voudront y replonger à nouveau pour lire, lorsque nous en saisissons le côté spirituel, nous ne nous laissons pas déstabiliser par les paroles franches concernant la relation homme et femme, le corps de l'homme et de la femme, comme c'est dit ici. Voilà, nous continuons chapitre 8.
Oh, que n'es-tu, mon frère, allaité des mamelles de ma mère? Je te rencontrerai dehors, je t'embrasserai, et l'on ne me mépriserait pas. Je veux te conduire, t'emmener à la maison de ma mère. Tu me donneras tes instructions et je te ferai boire du vin parfumé, du moût de mes grenades. Que sa main gauche soit sous ma tête et que sa main droite m'embrasse. Je vous en conjure, fille de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille.
Amen. Voilà une fois de plus cet amour présenté à son maximum, au point de comparer le bien-aimé à son frère, dire oh, « si tu pouvais être mon frère ». Mais pourtant, il dit « je te rencontrerai dehors, je t'embrasserai », embrasser son frère. Donc, nous voyons bien que quand ces choses-là sont dites, il n'y a pas le côté consommation auquel on peut penser quand nous lisons le livre de Cantiques de prime abord. Donc, il y a le côté consommation physique, c'est vraiment quelque chose de spirituel, c'est quelque chose. On nous prend l'exemple du mari et de la femme pour nous dire, c'est sans limite cet amour, ça va jusqu'à ce point-là. Parce que c'est l'idée qui est cachée derrière tout ça, c'est ça, c'est un amour sans limite. C'est, allez, tu dois y aller à fond dans l'amour avec Dieu, puisque Il parle de lui, il dit, mais même, j'aurais bien aimé que tu sois même mon frère, alors que c'est en quelque sorte son mari. Voilà, et tout en continuant les actes liés à l'homme marié et à la femme mariée. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Voilà, c'est ce que Dieu, parfois, ne fait pas. Il attend que nous voulions avant d'amorcer les choses. Les fois dernières, nous avons plus insisté sur l'explication suivante, comme quoi l'amour, c'est quelque chose de fort, de passionnant. Il ne faudrait pas le réveiller avant, parce qu'après, nous sommes emportés par l'amour. L'amour n'a pas de calcul. Et du coup, les dernières fois, nous avions plus insisté sur le fait qu'il faut calculer à la dépense quand nous entrons dans la relation avec Dieu, parce que c'est une relation d'amour, comme il est demandé à tous ceux qui vont entrer dans une relation qui les amène au mariage, ou même qui est censé, qui est supposé les amener au mariage, puisque comme dans le milieu chrétien, on ne peut pas parler d'une autre relation que le mariage. Donc les gens, parfois, qui sont attirés par quelqu'un, ils mettent ça en arrière-plan, ils mettent en arrière-plan toujours un peu le mariage. Voilà. Mais nous avons plus insisté sur le fait que quand nous nous embarquons dans l'amour, nous ne pouvons plus contrôler après. Voilà, c'est pourquoi il faut bien réfléchir froidement avant de s'embarquer dans l'amour, puisqu'après, c'est difficile de contrôler, c'est lui qui nous emporte. Nous avons plus insisté sur ce côté-là, ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne vienne. Nous voyons parfois des gens en temps normal qui étaient bien dans l'embonpoint, mais dès qu'il y a des situations d'amour comme ça, des régimes se font, les gens maigrissent. Donc nous voyons que l'amour peut donner, peut changer vraiment quelqu'un. Donc c'est pourquoi, étant quelque chose de fort, nous avions dit, avant de réveiller ça, il faut que tu comprennes la suite. Il faut que tu comprennes, par exemple, que tu te marieras, mais il y aura des enfants peut-être à gérer. On ne peut pas réveiller ça, mais en même temps se dire, ah, moi, j'aimerais bien pas avoir d'enfants. Voilà. Donc, il faut calculer, parce que quand l'amour vient, il y a des choses qui nous emportent après. Mais là, aujourd'hui, nous prenons le sens tel qu'il est dit ici, avant qu'elle ne le veuille. Voilà. Donc, c'est Dieu maintenant qui dit ceci. Eh bien, à nous, il aimerait bien que nous soyons volontaires dans cet amour. Il ne veut pas allumer les choses alors que nous ne voulons pas, parce que ça va créer un conflit entre lui et nous. Voilà. C'est pourquoi dans notre travail d'évangélisation, d'exhortation, nous devons toujours amener les gens à la responsabilité de choisir eux-mêmes qu'est-ce qu'ils veulent. Vous voulez quoi ? Vends tous tes biens et suis-moi, a dit Jésus à ce monsieur-là. Jésus pouvait le laisser le suivre, hein, mais il voulait qu'il comprenne bien que dans quoi il s'engage. Donc Jésus n'a pas voulu réveiller les choses avant que le monsieur comprenne bien dans quoi il s'engage. Donc nous devons nous rappeler cela entre nous et à ceux qui veulent venir au Seigneur. Est-ce que tu as bien compris de quoi il s'agit ? Voilà. Il ne faut pas qu'on réveille l'amour alors que toi, tu n'es pas encore prêt. Ça créera un conflit, ça créera des incursions, des intrusions du diable dans ta vie, parce que tu es en conflit avec Dieu. Ce n'est pas bon. Donc, il faut vraiment décider d'entrer dans cet amour avec Dieu. Nous continuons verset 5.
Qui est celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé ? Je t'ai réveillée sous le pommier, là ta mère t'a enfantée. C'est là qu'elle t'a enfantée, qu'elle t'a donné le jour. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris.
Voilà, il s'attirerait le mépris des gens, mais c'est ça l'amour. L'amour est très fort. Et c'est la relation que Dieu veut fonder avec nous, une relation d'amour, parce que l'amour est fort, l'amour unit vraiment. Et là, c'est écrit « fort comme la mort, jalousie inflexible comme le séjour des morts », mais dans d'autres versions, c'est « fort plus que la mort ». Voilà, l'amour est plus fort que la mort. Et c'est pourquoi Dieu veut que nous soyons dans cet état-là. Vérifiez vous-même, bien-aimés, dès que vous allez commencer à aimer, vous allez vous rendre compte que, eh bien, il y aura un retour aussi solide. Il y aura le mépris, comme on vient de lire, de certaines personnes qui ne vont pas comprendre, mais d'autres, pour d'autres, vous allez bâtir des relations solides parce que c'est l'amour. C'est pas le donnant-donnant qui construit, pas du tout. C'est vraiment l'amour qui construit. Et l'amour est lié, va ensemble avec le fait de perdre. Voilà. Quand vous pratiquez vraiment l'amour, vous aurez comme une impression que c'est vous qui dépensez beaucoup, en quelque sorte. Mais c'est ça l'amour. L'amour ne calcule pas. Et faut chasser cette impression vite fait et plonger dans l'amour, donner sans calculer. Et avec le temps, vous allez voir qu'il y aura un retour solide, solide. Vous construirez vraiment des choses solides. Alors que le donnant-donnant peut donner l'impression que nous réussissons, mais ça n'a pas de solidité. L'amour est plus fort que l'amour. Du coup, Satan est désarmé face à l'amour. Il est désarmé face à l'amour. La puissance de Satan, c'est le péché et la mort. Mais l'amour est plus fort que cela. Je me souviens de l'histoire de William Schnobelen, qui était un très, très grand sorcier. Il y a sorcier et sorcier, quoi. Lui, il avait comme l'ADN des sorciers. Donc, depuis enfant, il vivait des manifestations. Il avait des visites. Le diable le visitait d'une manière ou d'une autre, même qu'un jour, vers l'âge de 11 ans, il avait vu le ciel traversé par une ombre très immense qui arrivait presque jusqu'au ciel. C'était l'ombre du diable. Et il était vraiment dans ça depuis petit. Et du coup, quand il grandit, directement, il entre dans les choses de voyance, magie. Il devient spécialiste de tout cela. Et il épouse une femme qui l'entraîne dans cela. À un moment donné, sa femme, je ne veux pas tout raconter, mais à un moment donné, sa femme a commencé à comprendre que c'était une voie mauvaise et qu'elle devait revenir à Jésus qu'elle a connu autrefois. Et elle était revenue déjà à Jésus sans que son mari ne voit cela se faire. Mais avec le temps, c'était devenu évident qu'elle était à Jésus. Mais ils ne se sont pas séparés. La femme, suivant la Bible, n'a pas rejeté son mari. Et le mari, curieusement, il ne voulait pas divorcer de cette femme parce qu'il l'aimait beaucoup. Vous voyez ? Et c'est ce qu'il va expliquer plus tard. Il dit, il y a un domaine qui est inconnu pour le diable. Il connaît beaucoup de choses, il peut faire des miracles, il connaît les choses dans la science, dans beaucoup de domaines, dans la musique, dans la prédication, il connaît tout ça. Mais il ne connaît pas l'amour. Et du coup, c'est une difficulté pour le diable de prévoir les réactions des humains concernant l'amour, comme il ne le connaît pas. Vous savez, pour tâter certaines choses, il faut qu'on en ait une certaine connaissance, même ne serait-ce qu'une faible connaissance. Mais le diable, c'est un esprit qui est privé de bonté, d'amour à 100%. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et du coup, il ne peut pas prévoir les actes d'amour. Il ne peut pas manipuler ça. Et du coup, il explique que le fait qu'il a aimé, il aimait toujours sa femme a été donc l'échec du diable. Parce qu'il ne pouvait pas prévoir ça, le diable, que le monsieur continuera à aimer une femme chrétienne. Et il a dit, mais c'est ça qui m'a sauvé, parce qu'entre-temps, ma femme, elle priait pour que je vienne à Christ. Et vous savez comment la première étape de son retour, de sa venue plutôt à Jésus, c'était quoi? Il est parti déposer un chèque en faveur de ce qu'on appelle l'église de Satan aux États-Unis. Il va déposer ça à la banque, un chèque en faveur de l'église de Satan, et la caissière c'était une chrétienne. Quand elle voit que c'est au nom de l'église de Satan, vous savez, on fait un reçu quand on à l'époque, on faisait des reçus, tu déposes le chèque, on te donne un reçu par l'employé. La dame avait écrit sur le reçu, « Je prierai pour vous afin que Jésus vous sauve. » Et quand il reçoit le reçu, il va lire ça. Le simple fait de lire cette phrase-là, « Je prierai pour vous afin que Jésus vous sauve », lui a fait perdre tous ses pouvoirs de grand sorcier. Il n'avait plus rien. Il avait beau crier, « Satan, mais je n'ai plus rien, viens !» Il ne venait plus. Tout s'est coupé comme ça. Et c'est comme ça qu'il s'est souvenu qu'on lui avait dit que le jour où tu auras des problèmes avec tes pouvoirs, va chez les Mormons, c'est toujours nous. C'est comme ça qu'il est parti chez les Mormons à Salt Lake City, à Utah, donc à l'état de Utah, aux États-Unis, là où ils ont leur siège. Il est parti les voir et il leur a montré quelques insignes qu'il avait pour qu'ils le reconnaissent comme étant leur frère. Et du coup, on l'a nommé tout de suite pasteur des Mormons, alors que, voilà, c'était juste. Donc, ils l'ont vu le niveau qu'il avait dans la magie et ils l'ont nommé tout de suite pasteur, ainsi de suite. On lui a donné. Et petit à petit, c'est comme ça qu'il a fini par rencontrer Jésus réellement et être sauvé. C'est parce que l'amour est fort. L'amour est très fort. Et le diable est brisé devant l'amour. Il ne peut rien. Donc c'est ce que nous lisons là. Et c'est écrit, la jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'éternel. Là, la jalousie nous est présentée comme quelque chose de positif. La jalousie de Dieu, ce n'est pas le seul endroit, il y a d'autres endroits. Dieu manifeste de la jalousie nous concernant. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il nous aime tellement qu'il ne veut pas nous voir avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas de la jalousie méchante, soupçonneuse. Non, c'est la jalousie d'amour. Je te veux pour moi et que pour moi. Mais quand on est, au bénéfice d'une telle jalousie, on doit être heureux. C'est-à-dire, Dieu ne me lâchera pas. Voyez, quand tu es conscient que Dieu t'aime à ce niveau-là, au point que sa jalousie soit comme du feu, que ce soit plus fort que le séjour des morts, tu sais que quoi qu'il arrive, il ne me lâchera pas. Parce que vous savez, nous avons souvent à combattre les pensées du diable qui nous disent « Ah mais là, vraiment, c'est fini. Bon, là, tu ne pries pas assez. Il t'a dégommé. Tu n'es plus... voilà. Là, tu as échoué telle mission. Là, tu n'as pas fait ceci. » Non. Alors, mais quand nous sommes dans la connaissance de tout ce que nous lisons, nous savons que il ne nous délaissera pas. Il ne nous abandonnera pas. Il nous aime tellement, sa jalousie est tellement forte qu'il ne va pas nous laisser aller chez quelqu'un d'autre. Il va se débrouiller pour nous retrouver, pour nous ramener à lui. Voilà, c'est extraordinaire. La jalousie de Dieu, c'est plus fort que le séjour des morts. Et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne satirait que le mépris. Oui, les gens ne peuvent pas comprendre l'amour quand ils ne sont pas dedans. Comme tous nos prédécesseurs missionnaires, les gens ne le comprenaient pas parce qu'ils laissaient tout. Vous savez, il y a un exemple fort qui m'a toujours touché, c'est un jeune homme dont le frère avait été mangé par des tribus sauvages qui étaient partis évangéliser. Eh bien, deux ou un mois après, il s'est inscrit pour la prochaine équipe missionnaire pour aller au même endroit. Alors, je me suis dit, mais ces gens-là, ils ont mangé ton frère. Mais, vous voyez, l'amour, c'est incontrôlable. Mais ce garçon-là, il voulait sauver ces gens-là de ces tribus. Il s'est engagé au risque que lui aussi se fasse manger. Mais à son tour, ça n'a pas été le cas. Les gens de cette tribu-là ont reçu l'évangile, ils se sont convertis, mais lui ne pouvait pas prédire cela, mais y aller parce que l'amour du Seigneur était en train de l'étouffer, comme dit Paul. L'amour de Christ nous presse. Nous pensons que si un est mort pour tous, tous doivent mourir pour lui. Et comme Jésus aime tous ces humains-là, ah ben, je vais dans cet amour-là. C'est important, l'amour. Ça règle tout. L'amour, c'est ce qui fait avancer les choses spirituelles. C'est l'amour. Et je reviens sur « ne réveillez pas ». C'est ainsi que quand ça se réveille, vous réveillez ça avant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ce qui est arrivé, j'ai oublié son nom, à cet évangéliste qui est parti en Amazonie avec sa femme et ses enfants, évangéliser une tribu très difficile, parce que dans cette tribu-là, il ne compte que jusqu'à deux. Voilà, donc c'est un, deux. C'est pour montrer combien ils sont loin des raisonnements, des réflexions, de l'avenir, du plan, penser à un plan quelconque. Ils comptent que jusqu'à deux, un à deux, c'est tout. Et ils ont fait 7 ans, aucune conversion. Lui, il a craqué. Il a dit que Dieu n'existait pas. Voilà. Vous voyez, cet homme-là est parti en mission sans qu'il ait vraiment l'amour pour Dieu, l'amour de Dieu. Ça a été réveillé avant. Il est parti. Il a craqué, mais sa femme et ses enfants ont continué. Il a divorcé de sa femme pour prendre quelqu'un d'autre, mais sa femme et ses enfants ont continué la mission. C'est la preuve que l'Esprit de Dieu était en action, parce que sinon, toute la famille allait craquer. C'est lui qui a craqué. Il a dû peut-être un jour écouter l'Évangile avec sa femme, comme beaucoup aiment faire les choses ensemble. Il a suivi comme ça, mais l'amour n'était pas encore... Il ne voulait pas encore au fond de lui. Voilà. Et ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne veuille, parce que l'amour peut nous entraîner loin, parce qu'il est très fort, même les eaux ne peuvent pas le submerger. Ça ne veut pas dire qu'il faut, il faut attendre, il faut plutôt crier à Dieu pour entrer dans cet amour-là, parce qu'il ne faut pas dire « j'attends avant de m'engager ». Ah non, parce que tu ne connais pas l'avenir, demain peut-être ton jour de mort. Voilà. Il faut plutôt céder pour nous préparer, pas pour nous freiner. Voilà. Nous continuons. Verset 8 à 9.
Nous avons une petite sœur qui n'a point encore de mamelles. Que ferons-nous de notre sœur le jour où on la recherchera? Si elle est un mur, nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. Si elle est une porte, nous la fermerons avec une planche de cèdre.
Voilà, donc ça fait penser à quoi? Nous avons une sœur qui n'a pas encore de mamelles. Ça fait penser à une jeune fille qui ne peut pas encore être mariée. Voilà, donc il s'agit de quoi? Il s'agit de qui? Il s'agit des enfants, des gens qui sont immatures dans la foi, ou des gens qui sont dans le plan de Dieu pour être sauvés, qui ne le sont pas encore. Et c'est pourquoi la Sulamite, elle s'inquiète de ces sœurs-là. Le vrai chrétien s'inquiète par rapport à tous ceux qui ne sont pas encore sauvés. Il s'en inquiète. Il ne veut pas aller tout seul dans cet amour. Il veut aller ensemble avec d'autres humains que Dieu, dans sa préscience, connaît d'avance, mais qui ne sont pas encore entrés dans la maison. Et c'est ça le souci du chrétien. Il faut que tous ces gens-là aussi viennent. Il ne veut pas aller tout seul. C'est ce qui symbolise le fait qu'il n'a pas encore de mamelles. Voilà. Et nous continuons, verset 10.
Je suis un mur et mes sens sont comme des tours. J'ai été à ses yeux comme celle qui trouve la paix. Salomon avec une vie à Baal-Hamon. Il remit la vigne à des gardiens. Chacun apportait pour son fruit 1000 cycles d'argent. Ma vigne qui est à moi, je la garde. À toi, Salomon, les 1000 cycles. Et 200 à ceux qui gardent le fruit. Habitants des jardins, des amis, prête l'oreille à ta voix. Voilà. Daigne-me.
Voilà, on va plutôt s'arrêter au verset 12. On va finir après 13, l'autre. Je suis un mur et mes seins sont comme des tours. J'ai été à ses yeux comme celle qui trouve la paix. Salomon avait une vigne à Baal-Hamon. Il remit la vigne à des gardiens. Chacun apportait pour son fruit 1000 cycles d'argent. Ma vigne qui est à moi, je la garde à toi, Salomon. Vous voyez, quand nous avons lu le livre au début, qu'est-ce qui était dit? Il était dit que elle était privée de sa vigne, mais elle gardait la vigne de ses frères. Là, maintenant, on dit elle a sa vigne. Donc, ça veut dire que il y aura un moment où l'Église entrera vraiment dans sa gloire, dans son héritage. Mais comme les 24 vieillards, qu'est-ce qui va se faire? Les 24 vieillards, ils prenaient leur couronne, ils déposaient au pied de l'agneau, au pied de Dieu. Ben, la vraie Église, quand elle entrera dans sa gloire, elle ne cherchera pas à se glorifier comme on voit à gauche, à droite. Elle confiera cette gloire à Dieu lui-même. Ma vigne à moi, je te la réserve, Salomon. La gloire de la vraie Église sera réservée à Dieu lui-même. Donc là, nous nous approchons du départ et la vraie Église aura ce comportement-là que nous avons vu dans beaucoup de nos prédécesseurs qui déchiraient les vêtements quand on venait les adorer. Ils disaient, c'est pas nous qu'il faut adorer, c'est Dieu seul qu'il faut adorer. Et nous clôturons par le dernier cri, le cri qui précède l'enlèvement, le cri de tous les enfants de Dieu qui aiment vraiment le Seigneur.
Habitante des jardins, des amis prêtent l'oreille à ta voix. Daigne me la faire entendre. Fuis, mon bien-aimé, sois semblable à la gazelle ou au front des biches, sur les montagnes des aromates.
Amen. Là où c'est écrit « fuis », dans d'autres versions, c'est « viens, mon bien-aimé ». Viens, mon bien-aimé, sois semblable à la gazelle ou au front des biches, sur les montagnes des aromates. Ça, c'est le cri de l'Église qui veut le retour du Seigneur. Mais l'autre Église, qu'est-ce qu'elle veut ? Elle veut gagner la terre. Bâtir des châteaux, bâtir des maisons, avoir du succès. Il y en a même qui prétendent qu'ils doivent prendre des postes de président, de ministre. Les chrétiens doivent être ainsi. Et ils veulent la terre, mais la vraie Église veut le bien-aimé. Viens, mon bien-aimé. Donc nous lisons ça dans Apocalypse 22, à la fin, je crois, le dernier, presque le dernier verset. La vraie Église veut ça. Nous voulons partir. Nous voulons te rejoindre. C'est ça la vraie Église. La vraie Église ne vit qu'en attendant. En réalité, nous ne vivons qu'en... Le vrai chrétien, il vit en attendant. Il n'est pas assis. Il est debout. Comme quand il fallait quitter l'Égypte. Le vrai chrétien, il a les reins saints. Il est debout. Il cherche le chemin pour retrouver... son bien-aimé. Ce chemin-là, c'est à travers tous les moments où nous pouvons prier, nous pouvons faire le bien, nous pouvons louer Dieu. C'est, puisque c'est en attendant, comme il ne le voit pas encore, il ne l'a pas encore rejoint, il veut l'attirer à travers les prières, à travers l'évangélisation. Tout ce qu'il fait avec son bien-aimé, voilà, ça le console, l'Esprit Saint Consolateur, ça le console le temps de le retrouver. Mais quand vous prenez d'autres chrétiens, vous entendez seulement que des projets terrestres. Nous voulons ceci, tel bâtiment, nous voulons cela. Mais non, même si nous avons besoin de certaines choses terrestres pour justement servir ce bien-aimé, mais le vrai chrétien vit vraiment en attendant. Quoi. Il est là, il se dit, bon, je fais ce qu'il faut pour lui, mais j'ai envie de m'en aller. Nous lisons Apocalypse 22 à la fin.
Verset 20. Celui qui atteste ces choses dit, « Oui, je viens bientôt. » Amen. Viens, Seigneur Jésus.
Amen. Amen. Voilà. Donc, c'est ça la fin du livre de l'Apocalypse. Viens, Seigneur Jésus. Voilà. Nous vivons en attendant. C'est ça la réalité. Nous vivons en attendant. Et si ce n'est pas encore le cas, que ça devienne le cas. Est-ce que sans Jésus, nous allons prendre le chant, nous allons distribuer les feuilles, nous allons chanter sans Jésus, mon ciel. Et voilà. Ah oui, il y a des questions. Oh, mais je suis tellement embarqué. Voilà. Il manque seulement le vaisseau spatial. Oui. Oui, tu peux poser la question.
Tu as expliqué donc pour le verset 14, mais je ne comprends pas le verset 13.
Habitant des jardins, des amis prêtent l'oreille à ta voix, daigne me la faire entendre. Je crois qu'il s'agit de la Shulamite encore. C'est l'habitant des jardins et il y a le public, les gens qui sont sur terre veulent entendre sa voix qui crie à son bien-aimé. Les gens veulent entendre l'Église qui crie. Il y a des gens qui n'attendent que nous. Au fait, ils savent pas trop. Et c'est écrit dans Romains 8, le monde entier attend la révélation des fils de Dieu. Voilà, c'est ça. Donc, crie, quoi, habitante, manifeste-toi. L'Église doit se manifester comme un flambeau pour que les gens voient. Voilà. Que ce ne soit pas seulement une voix qu'il fait entendre au bien-aimé, mais au monde entier. J'ai soif de mon bien-aimé.
Et une autre question pour revenir au diable qui ne connaît pas l'amour. Mais le diable a été créé, c'est un esprit qui a été créé par Dieu quand il était oui. Lucifer. Mais Dieu peut créer un esprit sans amour.
Ah mais non, c'était avec amour. Mais au moment de la rébellion, tout est parti, c'est fini.
Ah, cet amour a disparu.
À cause de la rébellion.
La capacité d'amour a disparu de lui.
Il n'y a plus rien.
Et les anges qui l'ont suivi, c'est la même chose.
Oui, oui, c'est exactement pareil. Les démons n'ont aucune sensation d'amour. Vous voyez, souvent j'en parle à des bien-aimés concernant le comportement des gens qu'on peut appeler satanistes. C'est que parfois, les bien-aimés ne comprennent pas qu'un sataniste se comporte bien en face de bonnes choses. Mais je leur dis toujours, mais c'est des humains. Les humains ont toujours une racine d'amour qui existe encore, un rejeton qui résiste, qui existe encore. C'est ce qui s'est passé avec William Schnobelen. L'être humain, puisque l'être humain n'est pas un esprit, un démon, le démon n'a plus rien. Mais l'être humain, nous pouvons être surpris qu'un sataniste fasse du bien. Un bon exemple, c'est Saül. Quand il a vu que David ne l'a pas tué, il a sorti de belles paroles pour David. Il a dit que Dieu te bénisse, tu seras le roi, c'est toi qui seras le roi. Il a dit, quand vous suivez les paroles qu'il a dites sur David, c'est extraordinaire. Mais quelques jours après, il recherchait encore à tuer David. C'est ça la réalité. Il recherchait à tuer. Donc c'est l'être humain, même mauvais, peut avoir des élans de bonté, d'amour. Et c'est ça qui peut perturber parfois.
Mais donc, quand Dieu a rejeté Satan, enfin, à l'époque Lucifer, l'amour a complètement disparu. Aucun souvenir de ce que peut être l'amour.
Il n'y a plus le bien, même pas un 0,01%. Il n'y a plus. C'est le mal. C'est vraiment le mal. Il n'y a plus. Donc, du coup, il connaît, il est intelligent. Il connaît les secrets de l'avion, de la fusée, de tout ça, des mathématiques, ainsi de suite, de l'architecture. C'est pourquoi même les francs-maçons l'appellent le grand architecte. Il connaît les secrets de la musique, des choses comme ça. Mais l'amour, là, c'est bloqué.
Mais il a perdu, Dieu lui a enlevé l'amour, mais il ne lui a pas enlevé la capacité de faire des miracles.
Parce que l'amour, c'est le contraire du mal. Au fait, c'est ça. Lui, il est devenu mal. C'est l'amour qui est le contraire. L'intelligence n'est pas forcément le contraire du mal. Donc, on peut être mauvais et être intelligent.
Oui, mais la capacité des miracles, les choses comme ça...
Il les a gardés, mais c'est des faux miracles. Il y a des dimensions. Dans cela. C'est pourquoi Jésus a dit, croyez au moins par rapport au miracle que je fais. Le diable ne pouvait pas faire les miracles que Jésus faisait. Quand il est dit que le diable nous séduira par des miracles, c'est dit dans Thessaloniciens, c'est des miracles mensongers. Voilà. C'est comme des illusions. C'est extraordinaire, mais ça ne peut pas durer parce qu'il n'a pas la capacité de création. Voilà. C'est ainsi que des gens comme William Branham, donc lui-même, il a, pour se défendre, alors que pendant le culte, il priait pour quelqu'un, la personne guérissait. 3 jours après, la personne est retombée malade. Lui, il a dit que c'est parce que le corps n'était pas encore habitué à la guérison. C'était un mensonge. C'est que c'était des pouvoirs diaboliques. Donc Satan pouvait guérir la personne pendant 3 jours, comme une forme d'illusion. Mais comme il n'a pas la création dans sa main, c'est pourquoi Jésus dit, moi j'ai la vie dans ma main. Voilà, Jésus en parle de ce que je dis là, mais il faut être enseigné pour comprendre. Il dit, moi j'ai ça. Lui n'a pas, donc il peut faire comme une illusion qui va impressionner l'être humain, mais ça ne va pas impressionner un ange ni Dieu, puisqu'il sait que tout ça c'est temporaire, c'est qu'une illusion. Voilà. Ok, il y a encore des questions? Non? Ah, là-bas, frère Jean. Oui, oui.
Oui, je voulais dire, est-ce que le fait que Satan n'ait pas l'amour, Dieu l'a enlevé l'amour par désobéissance, et cela nous emmène aussi à comprendre, comme la parole le dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse, et aussi à comprendre aussi que quand on craint pas Dieu, il y a certaines choses spirituelles que nous comprenions pas. Et quand nous craignons Dieu, Dieu nous donne une sagesse qui nous fait comprendre beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut faire le lien de toutes ces choses?
Non, là moi je parle de l'amour. Je parle pas de la connaissance.
Oui, moi
on peut être mauvais et avoir la connaissance.
D'accord. Mais la connaissance des choses spirituelles,
oui,
la connaissance dans le travail de l'œuvre de Dieu, humainement parlant, souvent, c'est dans la crainte de Dieu que beaucoup de gens comprennent le domaine spirituel, que d'autres ne comprennent pas.
Oui, c'est vrai que Dieu se révèle aux humbles, mais ce n'est pas ça la question ici. La question ici, c'est la question du fait que le diable n'a même pas un pourcentage d'amour. Mais en connaissance, il peut en avoir. D'ailleurs, il a tenté Jésus avec une certaine connaissance malfaisante. Il a une certaine connaissance. C'est pourquoi même, mais pourquoi les autres, le faux pasteur convainc les gens, ils arrivent à convaincre les gens, c'est par une forme de fausse connaissance qui fonctionne. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que l'amour est le contraire du diable. Donc, du coup, il ne peut pas l'avoir. Je ne sais pas si c'est... Voilà, mais c'est son contraire. Mais le reste, c'est possible d'une certaine manière.
D'accord. Par rapport à la question de la sœur Chantal, ce que je voudrais dire, c'est que est-ce que c'est par la désobéissance que Dieu lui a enlevé cet amour?
La rébellion, nous l'avions dit.
Oui, toutefois, je reviens maintenant à ce que je disais. Donc, je disais que la désobéissance ou bien le manque de la crainte de Dieu nous empêche, nous aussi, d'accéder à certaines choses.
Oui, mais bon, je voulais dire que ce n'est pas le sujet. C'est vrai, mais relier ça à l'amour, non, c'est ça, tel qu'on vient d'expliquer par rapport à Satan, non. Le fait que nous ne comprenions pas certaines choses, c'est lié à l'orgueil, comme c'était dit, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Mais là, nous parlons du fait que dans le diable, il n'y a pas une once d'amour, et que l'amour est donc une force contre lui. Voilà, c'est ça l'enseignement. Ce n'est pas le fait que nous ne comprenions pas certaines choses, nous sommes d'accord avec ce que tu dis, mais là, c'est par rapport à la relation avec ce que nous disons, non. Ce que nous disons, c'est que le diable n'a aucune once d'amour et que c'est ce qui fait que quand nous pratiquons l'amour, nous sommes plus forts. Voilà. C'est ça.
Il y a une question internet. En fait, l'internaute veut comprendre par rapport à ce que tu dis que Satan n'a pas d'amour. Demande, est-ce qu'il y a-t-il un verset qui peut lui montrer que Satan n'a pas d'amour? Est-il possible d'avoir un verset qui montre que Satan n'a pas d'amour, s'il vous plaît?
Je n'ai pas le verset comme ça en tête, mais Satan, c'est le contraire de l'amour. Voilà, c'est sa définition. Il est l'ennemi. Il est l'ennemi. Il est le contraire de tout ce qui est Dieu et notamment de l'amour. Voilà, donc en lui, il est écrit par exemple dans Jean 10:10, il ne cherche que à égorger, à détruire et à dérober. Voilà, donc sincèrement, je ne vois pas, dans la connaissance que nous pouvons avoir du diable, je ne vois pas où on va trouver l'amour. Pour qu'il en fasse quoi, au fait, quoi? Je ne comprends pas. Voilà. Amen, amen, Seigneur. Nous voulons aujourd'hui nous prosterner devant toi, Père éternel. Désormais, que tu sois l'amoureux de notre âme, que tu sois tout pour nous. Que nous marchions avec toi la nuit, le jour, pendant que nous dormions, à tout moment, que tu sois l'amoureux de notre âme. Que nous puissions relire ce livre et plonger davantage dans cela. À toi la gloire, la louange, Père, pour ce livre merveilleux, Seigneur. Merci de nous entraîner dans un tel amour, au nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse.